Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Elle couvre la France d'un grand manteau, celui de la foi chrétienne pour les croyants, celui d'un patrimoine extraordinaire pour beaucoup. Elles, ce sont les églises. La France en comptait plus de 50 000 églises, mais aussi chapelles de tous acabits, un trésor à côté desquels l'on passe souvent, faute de pouvoir y entrer, trouvant la plupart du temps porte close. Aussi, pour tordre le cou à cette réalité, pour profiter au moins une fois par an de tous ces trésors, les évêques de France ont lancé la Nuit des Églises, dont la 9e édition se déroulera du 28 juin au 7 juillet prochain. Coup de zoom sur la Nuit des Églises, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler autour du plateau, Mathilde Schoeffer, vous êtes en direct depuis Paris puisque vous travaillez à la Conférence des évêques de France. Vous êtes membre du département d'art sacré, bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindra un petit peu plus tard Claudine Fabre pour la Haute-Garonne qui elle est bénévole conférencière pour la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. On aura aussi Pierrette Pédoussa pour l'église Saint-Cernin de Domazin en Ariège et Thérèse Resseguir, que des femmes dévouées à toutes ces églises. Thérèse Resseguir pour le canton de Castelnau-Montratier dans le Lot. La Nuit des Églises fête donc sa 9e édition. En Occitanie, il y a un certain nombre de manifestation, on reviendra dessus. Je voulais avec vous, Mathilde Schoeffer, pour commencer cette émission, avant de se lancer dans la genèse de cette Nuit des Églises, essayer de faire un petit peu un panorama de la situation des églises en France et de leur nombre. Alors ce matin, je posais la question en teasing lors de la matinale du nombre d'édifices religieux en France. C'est un grand manteau blanc, comme l'a dit à une époque un historien, plus de 50 000 édifices. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état des lieux de ce patrimoine en France ?
Eh bien, les églises aujourd'hui, depuis 1905, ont plusieurs problèmes, notamment de financement, puisque elles sont en général la propriété des communes, mais même les communes, elles voient leur fonds réduire, et donc il y a beaucoup de problèmes de financement, mais il y a aussi beaucoup de communautés religieuses qui, elles, sont vivantes et tiennent beaucoup à leur église et à leur patrimoine, puisque l'église représente vraiment une identité du village auquel les habitants sont toujours très attachés. Et c'est ce que nous, on voit avec les différentes participations à la Nuit des Églises.
Alors à propos de ce patrimoine, je lisais dans un article de West France, c'était en date du 16 mai dernier, donc il y avait entre 40 000 et 60 000 édifices religieux en France. L'Observatoire du patrimoine religieux donne, c'est ça, à peu près 50 000, donc églises, chapelles, en tous états, y compris donc les ruines et les vestiges. Des clochers, ils en donnent un peu plus de 54 000, ce qui veut dire que tous ne sont plus des édifices religieux. Et on trouve même des églises aujourd'hui à vendre. Ce matin, en préparant les à l'émission, je voyais donc un site Patrice Bess qui a l'air de se spécialiser dans la vente d'immobilier à caractère dans lequel on peut trouver des églises, et il paraît même qu'on peut en trouver sur le Bon Coin. J'ai lu aussi le site de cet observatoire du patrimoine religieux que les Français sont de plus en plus sensibles à cette question de la conservation du patrimoine, ce qui n'était pas toujours gagné. Quels sont les échos que vous avez du terrain, Mathilde Schoeffer? Est-ce que les maires des communes se sentent responsables de leurs églises?
Eh bien, ça dépend beaucoup du maire. C'est vrai que nous, dans la Nuit des Églises, on a certains participants qui sont de l'initiative des mairies. J'imagine que ça doit exister des maires qui ne font pas du tout attention à leur église, mais ça reste quand même très très rare. On a vraiment principalement des maires et des municipalités qui tiennent vraiment à leur église et à la garder en état. Puisque c'est important pour certaines, elles sont là depuis plusieurs centaines d'années. Donc voilà, l'église fait vraiment partie intégrante du village.
Voilà, donc en tout cas cet article notait que depuis les années 80, vraiment il y avait un mouvement de fond dans la société française et que ces églises étaient autant de Notre-Dame dans les villages. Il faut rappeler aussi que la loi de séparation de 1905 fait que ce sont les communes qui ont la charge d'entretenir les églises et qu'un certain nombre sont à restaurer. Alors, cette Nuit des Églises, puisque nombre de ces églises, je crois qu'il y en a à peu près 10 000 aujourd'hui qui sont réellement en activité, on va dire activité religieuse, religieuses, qui sont des paroisses, où il y a de temps en temps la messe qui est célébrée. Comment est venue cette idée de la nuit des églises à la conférence des évêques de France? Racontez-nous.
L'idée est venue tout simplement d'une envie de se réapproprier son patrimoine de proximité et puis surtout son église, puisque voilà, comme vous dites, il y a environ 10 000 églises qui sont encore avec une activité de culte, mais pour beaucoup ça va être une fois par an, deux fois par an. Et donc le principe est très simple, on a déjà la nuit des musées, les nuits blanches, la nuit des cathédrales, on a repris un petit peu ce principe, et puis on l'a adapté aux églises de France.
Alors à ce propos, donc, on trouve sur votre site internet un certain nombre de remarques. Il est dit entre autres que c'est souvent une occasion très favorable pour tous les acteurs de la vie locale d'essayer un peu de se ressaisir de ce patrimoine culturel et spirituel. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple de commune où cela a suscité un élan assez important?
Je pense par exemple à Villedieu-les-Poêles qui est en Normandie, qui ont prévu un programme sur les 10 jours de la nuit des églises, donc du 28 juin au 7 juillet. Tous les jours, ils ont une activité, donc ça va de la conférence au concert, à l'adoration, aux expositions, et également sur plusieurs églises, c'est-à-dire qu'ils ont créé un maillage pendant ces 10 jours avec une vraie vie de communauté, mais élargie. Voilà, donc à l'église de Villedieu et puis à d'autres églises des hameaux environnants.
Qu'est-ce que vous auriez d'autre comme exemple, comme ça, de, on va dire, d'élan local et particulièrement où les pouvoirs publics et les habitants se mobilisent et pas seulement la paroisse?
Par exemple, à Sceaux, il y a toute une soirée qui est organisée avec 16 choristes soutenus par la mairie. Il y a beaucoup d'associations aussi, notamment à Brajac, voilà, qui est soutenue par la mairie. C'est une association de sauvegarde de l'église pour sa restauration, son entretien, etc. Enfin voilà, on a souvent des associations entre eux, office de tourisme, mairie, communauté locale, autour de l'histoire de l'église qui souvent reprend l'histoire du village.
Alors vous avez un certain nombre de partenaires pour cette manifestation, Grand Prix Pèlerin du Patrimoine, le label Église Verte, c'est donc un nouveau label qui existe pour classer, on va dire, son église ou sa communauté dans une démarche écologique, signifie qu'elle est dans une démarche écologique. Est-ce que vous pouvez citer quelques-uns des partenaires?
Alors des partenaires, nous avons en plus du Grand Prix Pèlerin du Patrimoine et de l'Église Verte, la sauvegarde de l'art français, la Fondation Patrimoine et Environnement, les chantiers du cardinal et le jour du Seigneur.
À propos de cette nuit des églises, Mathilde Schoeffer, pour finir, on imagine que si la conférence des évêques de France a lancé cette initiative, c'est pas seulement pour mettre en valeur le patrimoine de toutes ces églises et les chapelles qui sont plus nombreuses encore que les communes de France, puisqu'il y a 36 000 communes en France, mais qu'il y a aussi derrière une intention spirituelle. Sur votre site, on dit qu'il s'agit de passer un moment spirituel, d'aider les gens à oser franchir le seuil et de faire l'expérience d'un moment d'intériorité. Quelle est un peu l'invitation des évêques sur ce sujet?
Eh bien, l'invitation des évêques, c'est tout simplement de passer, comme vous l'avez dit, une soirée qui mêle à la fois culte et culture, puisqu'on essaie de proposer une rencontre aux personnes qui auraient envie de franchir le seuil de l'église, puisque bien souvent, si on n'est pas habitué à aller à l'église régulièrement, si on ne fait pas partie d'une communauté chrétienne, on ne va pas forcément oser franchir dans une église. Et donc, la nuit des églises, c'est inviter quiconque passe, quiconque est intéressé à rentrer dans cette église et à faire l'expérience et la rencontre de quelque chose de plus grand et de quelque chose d'autre que ce qu'on peut côtoyer dans nos vies de tous les jours.
Voilà, à la fin de cette nuit des églises, on trouve sur notre site donc lecture de quelques textes de l'écriture, lucernaire, chant, prière ou texte poétique, le seuil que chacun est appelé à franchir et celui de l'église, mais aussi celui d'un moment d'intériorité inattendu peut-être, découvrir ce lieu saint, c'est être accueilli par l'église. On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver nos autres invités, entre autres Claudine Fabre, pour découvrir la cathédrale Saint-Étienne, son patrimoine, ses grandes heures, cathédrale Saint-Étienne donc à Toulouse, ses grandes heures, et puis voir ce qui est proposé à l'occasion de cette prochaine Nuit des Églises pour sa 9e édition, je rappelle, donc du 28 juin au 7 juillet prochain.
Emmanuel Pella.
Zoom sur la nuit des églises, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau pour ceux qui nous rejoindraient pour nous en parler. Nous étions au début de cette émission avec Mathilde Schoffer, qui est du département d'art sacré de la Conférence des évêques de France, et en plateau ou par téléphone pour nous parler de quelques-unes des festivités à venir de la nuit des églises. Claudine Fabre pour la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse située en Haute-Garonne, Pierrette Pédoussa pour l'église Saint-Cernin de Domazin en Ariège, et Thérèse Resseguir pour le canton de Castelnau de Montratier situé dans le Lot. Bref, 11 balades. À propos de balades justement, on va, Claudine Fabre, avec vous se balader dans la cathédrale Saint-Étienne. Alors on s'est dit en préparant cette émission qu'on allait penser à tous ceux évidemment qui ont envie de venir pour leur mettre l'eau à la bouche, mais aussi à tous ceux qui ne se déplaceront pas et ne pourront pas être partout en même temps. Et donc avec vous, on va partir pour une balade virtuelle dans la cathédrale Saint-Étienne. Peut-être avant de rentrer un peu dans le détail, est-ce que vous avez un coup de cœur, vous, sur pour ce lieu, et si oui, pourquoi ?
Moi, je suis paroissienne de la cathédrale et j'aime beaucoup ma paroisse. Et sur le bâtiment lui-même, mon coup de cœur, c'est la nef Raymondine. Je l'aime parce qu'elle est sobre, elle est vaste et elle insuffle de la paix. Il en émane de la paix et moi, j'ai envie d'y prier dedans.
Voilà, voilà, vous êtes toulousaine peut-être d'origine, c'est-à-dire oui. Vous alliez déjà à la cathédrale Saint-Étienne étant enfant.
Oui. Non, je n'y allais pas enfant, mais je suis arrivée il y a très longtemps. Mes enfants y ont été baptisés. On a eu des événements familiaux, des décès dans la cathédrale, des inhumations. Et là, j'ai appartenu aux équipes d'animation pastorale successives. Puis maintenant, je m'occupe de la liturgie et surtout, je suis responsable du pôle catéchuménat autour du Père Simon.
Voilà, c'est Père Simon donc, qui est le curé de la cathédrale, puisque cette mise en valeur du patrimoine, c'est aussi l'occasion, on le verra avec la cathédrale Saint-Étienne, de montrer qu'il y a, voilà, ce ne sont pas que des bâtiments, c'est aussi une histoire sainte et puis encore une histoire vivante. Alors la première chose qu'on remarque quand on arrive devant la cathédrale Saint-Étienne, il n'y a pas besoin de rentrer à l'intérieur, c'est qu'on a l'impression que c'est comme deux bâtiments juxtaposés, collés l'un à l'autre. On va dire la nef est plus étroite et après s'élargit vers le chœur, mais il faut partir un peu vers la gauche. Est-ce que c'est une cathédrale en deux morceaux, Claudine Fabre ?
Oui, on peut dire ça, elle est en deux morceaux. Quand on rentre par le grand portail côté place Saint-Étienne, on rentre dans la nef appelée communément nef Raymondine, qui date de la première moitié du XIIIe siècle. Cette nef a été construite sur l'église romane de l'évêque Isarne. Isarne a été évêque de 1070 à 1105. Il avait construit une église romane. Puis le temps a passé, 100 ans ont passé, et puis l'évêque Foulque est arrivé en 1205. Et il a été évêque jusqu'en 1231. L'évêque Foulque était l'ancien prieur de l'abbaye du Touronnet en Provence. Donc il était abbaye cistercienne. Et donc il était influencé par ces espaces vastes propices à la prédication. Et cette nef est donc construite par lui-même dans cette première partie qui est gothique, dont cette première partie du XIIIe siècle est inspirée et des églises cisterciennes. Elle est sobre, comme les mets, sans fioritures, comme les mets, les ordres mendiants.
Alors pour la première partie, pour la nef, vous avez dit la partie Raymondine, ça
veut
dire quoi ?
La nef dite Raymondine.
Ça veut dire quoi, Raymondine ?
Parce que quand Isarne a construit son église romane, il a trouvé une aide financière auprès du comte Guillaume IV de Toulouse. Puis plus tard, Foulque et même Bertrand de Lille a trouvé quand ils ont construit la suite et le chœur, ont trouvé de l'aide financière auprès du comte alors Raymond VI et puis Raymond VII de Toulouse. Et communément, on l'appelle ou nef d'Isarne ou nef Raymondine. Voilà.
Donc c'était
le début dont nous sommes dans la nef. C'est une église de style gothique du midi de la France de la première moitié du XIIIe siècle. Donc très sobre, vaste, très dépouillée.
Depuis, est-ce qu'il y a eu des remaniements ? Est-ce qu'on peut compter des remaniements ? Est-ce que grosso modo,
ça c'était pour la nef. Et ensuite est arrivé donc l'évêque, donc Foulque a été évêque jusqu'en 1231. Et c'est le dominicain Raymond du Foga, qui était provincial des dominicains, qui a poursuivi les travaux de Foulque après la mort de celui-ci jusqu'en 1270. Puis Bertrand de Lille a succédé comme évêque à Foulques, donc de 1270 à 1286. Et lui, il était, Bertrand de Lille avait les moyens, il était apparenté au comte de Toulouse, il était allé à Paris, il avait vu les splendides cathédrales de l'Île-de-France et il a eu envie de remanier cette cathédrale. Alors, il a commencé par raser l'abside de l'église de Foulques et il a commencé à construire le chœur. Il a commencé par la partie orientale. Il s'est appuyé côté méridional sur le cloître construit par Izarn, qui a été démoli après la Révolution et qui correspond à la cour Sainte-Anne, et il a construit un beau chœur gothique du nord de la France. Et quand on le voit, il est beaucoup plus décoré, il est beaucoup plus lumineux, il est plus haut. Et donc, effectivement, mais Bertrand de Lille, qui avait les moyens, donc...
Attendez, juste, je vous arrête, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'on a commencé par construire le chœur. Je ne vous suis pas, en fait, nef et chœur.
La nef, d'abord, la nef.
La nef, c'est ça. Vous parliez au début de la nef, et lui, il a ajouté donc le chœur.
Lui, il a ajouté un chœur, mais il avait l'idée de construire une magnifique cathédrale, comme celle du nord de la France. Et vous voyez, au départ, il pensait que la nef arriverait jusqu'à la fontaine du Griffoule, située place Saint-Étienne. Et on raserait la nef Raymondine. Bon, il est décédé en 1286, donc les travaux se sont arrêtés à ce moment-là.
Alors maintenant, si on se promène, imaginons qu'on s'y promène, comment vous décririez le lieu? Donc il y a une hauteur sous plafond d'à peu près 40 mètres, c'est ça?
Non. Il y a eu un grand incendie en décembre 1609.
28 mètres, mais on prévoyait 40 mètres.
On était parti pour 40 mètres de hauteur, comme à Narbonne. Mais après l'incendie, les Toulousains ont dit stop, on arrête, on couvre la cathédrale. Et là, on a voûté à 28 mètres de hauteur. Ce qui fait que quand on est dans le chœur, on le voit, ça se voit, c'est un peu tassé. Le chœur est un peu tassé, ça n'a pas l'élévation des grandes cathédrales du Nord.
Alors que dire d'autre? Il y a aussi un clocher assez monumental et assez original. Décrivez-nous ce clocher.
Le clocher a été construit par le cardinal Pierre Dumoulin.
Brique de Toulouse, on a
l'impression. En brique de Toulouse, voilà. Par le cardinal Pierre Dumoulin au XVe siècle. Il a été construit sur le clocher roman d'Izarn. Il est monumental, un peu lourd. Voilà.
Et à l'intérieur, il y a...
Et à l'intérieur, alors, il a, à ce moment-là, on a creusé à cette époque-là aussi la chapelle des fonts baptismaux sous le clocher.
Mais à l'intérieur, il y a, voilà. Donc, il y a aussi le carillon.
Oui, il y a un carillon de 22 cloches qui n'est pas en état, qui est en cours de restauration, mais c'est très avancé. Et il va être inauguré dignement au moment des journées européennes du patrimoine, le week-end du 21-22 septembre 2019, en présence de Monseigneur Le Gall.
Alors avant qu'on regarde les grandes heures de cette cathédrale, peut-être la dernière chose à noter, c'est les vitraux. Entre autres, une belle rosace. J'ai lu qu'elle rappelait la rosace de Notre-Dame de Paris.
Oui. Non, alors, ça a été écrit comme ça, mais ça n'est pas juste. Cette rosace a été posée en 1210-1220. Elle est inspirée de l'église de Santa Cruz de Catalogne, qui était une filiale de l'abbaye du Grand Selve, qui est une abbaye cistercienne. C'est vrai qu'on peut avoir... Elle peut faire penser à Notre-Dame de Paris, mais la réalité, c'est celle-ci. Et elle présente le triomphe de l'église. Elle était très belle, très lumineuse, mais elle a été abîmée des morceaux de verre ont été reconstitués au 19e. Elle fait 6,70 m de large, elle est quand même très belle.
Est-ce qu'il y a un autre point, puisque c'est une visite à grands pas, et on invitera les auditeurs après à vous rejoindre lors des festivités, mais est-ce qu'il y a autre chose de singulier que vous vouliez noter à propos de cette cathédrale?
Alors, ce qu'il y a de beau, c'est le grand orgue et les stalles. Le grand orgue date de 1613. Le buffet d'orgue qui est magnifique, suspendu à 18 mètres de haut, qui repose sur une culée de pierre somptueuse. Ce grand orgue est en bois de chêne et de noyer. Il a été sculpté par deux sculpteurs, Morisot et Béhori. Et il est classé, le buffet est classé au monument historique. Le grand orgue possède plus de 3000 tuyaux, ce qui lui vaut son appellation de grand orgue. Et il a été conçu au départ par Lefébure, qui était un facteur d'orgue, mais qui a été organiste de la cathédrale. Il a été rénové, relevé à la fois par Cavaillé-Coll au XIXe et au XXe siècle par le facteur contemporain qui est Kern. Voilà. Et il est magnifique. Il s'y fait beaucoup de concerts, en particulier au moment du festival Toulouse les Orgues.
Et, voilà. Et il en sera donné un, on le redira à l'occasion donc des festivités. J'ai oublié de le dire, pour vous, la Nuit des Églises, ça sera le 28 juin de 21h à minuit. Les grandes heures de la cathédrale, si vous deviez retenir quelques grands événements et nous rendre contemporains de ces événements, qu'est-ce que ces pierres ont vu ?
Alors, elles ont vu passer les premiers évêques de Toulouse, dès l'an 400. On sait par le document qui s'appelle « La Passion de Saturnin » que les évêques Silve, Exupère, avaient leur église, donc à l'emplacement de la cathédrale Saint-Étienne. Ensuite, en 844, le roi de France est venu apporter la charte à l'évêque Samuel, qui était à ce moment-là à la cathédrale, et dans laquelle il précise que cette église est le sedes episcopi, le siège de l'évêque, donc c'est la cathédrale, et il a redéfini les possessions, ainsi que les possessions d'ailleurs du monastère Sainte-Marie de la Dorade et de Saint-Cernin, donc déjà en 844. En 1215, les dominicains se sont installés à Toulouse et ils se sont mis sous l'obéissance et la protection de l'évêque Foulque. Et les dominicains ont participé largement à lutter contre l'hérésie cathare. Il y a d'ailleurs un tableau au musée du Vieux-Toulouse qui représente un dominicain prêchant dans la nef Raymondine remplie de monde. Donc il fallait lutter à ce moment-là contre l'hérésie cathare. Ensuite, si on fait un grand saut dans le temps, moi je pense à Monseigneur Saliège.
Et on en parlait récemment à cette antenne, à l'occasion du débarquement. Isabelle O'Neill, dans la matinale, avait rappelé cette grande figure. Et donc l'appel du cardinal Saliège, c'était
23 août 42. Il a demandé il a écrit une lettre dans laquelle il dit « Tous les juifs sont des hommes, tous les juifs sont des femmes, ils sont des frères comme nous tous ». Et il a demandé à tous ses curés de la lire. Et donc c'était la première fois qu'il y avait une manifestation contre l'antisémitisme ambiant.
Alors dans les deux minutes qui nous restent, avant qu'on donne toutes les références, qu'est-ce qui se vit aujourd'hui ? Je vois donc pour votre programme que la cathédrale Saint-Étienne donc sera mise en lumière, diaporama, lecture, chant grégorien. La cathédrale Saint-Étienne est évidemment un lieu phare pour Toulouse, pour le diocèse de Haute-Garonne, mais aussi pour l'Occitanie. Et c'est un lieu de vie chrétienne. Alors, comment va ce lieu de vie chrétienne ? Qu'est-ce que vous pourriez en dire ?
Il est dynamique, il va bien, il s'y vit de très belles choses. D'abord, en tant qu'église mère du diocèse, il y a tous les événements diocésains, en commençant par la messe chrismale, moment de Pâques, les baptêmes des catéchumènes. Dans la nuit de Pâques, on a eu 6 baptêmes de catéchumènes.
Catéchumènes adultes, donc.
Des catéchumènes, ce sont des adultes qui demandent le baptême. Pour Pentecôte, il y a eu 117 catéchumènes sur tout le diocèse qui ont été confirmés. C'est quand même beaucoup. Il s'y vit les ordinations des prêtres et puis également toute la vie civile qui est associée. Je pense quand il y a eu l'explosion à ZF, moi j'y étais, et il y a eu une messe où tout le gouvernement était présent, une messe à la cathédrale Saint-Étienne, très peu de temps après l'événement. Ensuite, il s'y vit donc pour tous les paroissiens, les baptêmes, les mariages, les funérailles. Il s'y vit aussi des belles choses, d'évangélisation. Je pense
récemment un festival.
Voilà, ce qu'on appelle le Good Festival. C'était un festival qui a eu lieu le 25-26 mai dernier, et qui était un festival d'évangélisation où des jeunes sont partis à la rencontre des personnes qu'ils ont croisées dans les rues environnantes pour leur parler de Dieu, qui ils étaient. Ils ont été très bien reçus. Et puis le lendemain, il y a eu la messe des curieux où la cathédrale était pleine. Et tous les paroissiens étaient invités à amener des personnes qui ne connaissent pas l'église, qui ne rentrent pas dans une église, et où la messe était expliquée et particulièrement soignée ce jour-là. Donc vous voyez, là on allait aux périphéries.
La Nuit des Églises, c'est donc à la cathédrale Saint-Étienne le 28 juin prochain, de 21h à minuit. Lumière sur Saint-Étienne, mise en lumière de la cathédrale, accueil des visiteurs et en alternance lecture sur Saint-Étienne, chant grégorien, concert d'orgue et en continu un diaporama commenté sur la vie de Saint-Étienne. Merci beaucoup Claudine Fabre de nous avoir fait cette promenade. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va retrouver Pierrette Pessouda pour donc cette église en Ariège Saint-Cernin de Domazin et Thérèse Resseguir, elle, dans le Lot pour le canton de Castelnau de Montrati, puisqu'en l'occurrence, il n'y a pas qu'une église, l'église Saint-Martin de Castelnau de Montrati, mais d'autres églises. Merci beaucoup.
Thank you. Présence à Millau, 106.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Zoom sur la nuit des églises, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, donc cette initiative lancée par la Conférence des évêques de France qui en est à sa 9e édition et qui se déroule du 28 juin au 7 juillet prochain. Le propos étant donc de mettre en valeur les nombreux édifices religieux qui couvrent la France. On le disait au début de l'émission, à peu près 50 000 édifices catholiques. Alors parmi eux, il y en a deux qu'on a choisi de mettre en valeur, puisque dans notre région Occitanie, il y a à peu près une douzaine d'églises qui ont répondu à l'appel. Il y a chez vous Pierrette Pédoussa pour l'église Saint-Cernin de Domazin située en Ariège. Bonjour. Bonjour.
Bonjour les auditeurs.
Voilà, Thérèse Resseguir pour le canton de Castelnau de Montratier situé dans le Lot. Bonjour aussi.
Je suis bien Thérèse Resseguier et je rectifie, c'est la commune de Castelnau-Montratier.
Montratier, pardon, excusez-moi, merci de cette précision. On va commencer avec vous, Pierrette Pédoussa, donc pour l'église Saint-Cernin de Domazin en Ariège. Donc l'Ariège au sud de notre région. Cette église qui a donc un lien avec le diocèse de Toulouse, compte tenu de son nom, Saint-Cernin, on y reviendra. Si vous deviez commencer juste par nous décrire cette petite église à la double identité romane et gothique, imaginons qu'on est à l'extérieur du bâtiment. À quoi ressemble votre petite église ?
Eh bien, d'abord, notre église se trouve sur la place du village. Elle est bordée par la route qui communique la vallée de la Rize depuis le Mas d'Asile. Enfin, c'est le lieu le plus connu de la basse Ariège, jusqu'au département de la Haute-Garonne, qui se trouve à 13 kilomètres de chez nous, dans le Tessier-Volvestre.
Cette église, donc, sur la place du village, comme souvent dans nos villages de France, elle a donc une double identité, elle est à fois romane et gothique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu?
Vu de l'extérieur, nous avons un beau clocher, qui est du 15e siècle. C'est ce qui se remarque à l'horizon, clocher octogonal avec une tourelle qui enferme un très joli escalier en vis. C'est contre ce clocher que s'appuie l'édifice actuel qui, à l'origine, est une église primitive romane dont persiste le chevet, le seul chevet.
Alors cette église, vous en êtes, on imagine, fier. Parlez-nous de Saint-Cernin, juste quelques mots. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée Saint-Cernin ?
Eh bien, je pense que si l'on recherche dans nos archives, on remarque que cette église qui avait été fondée sur le site par l'abbaye d'Allée, qui était des bénédictins, qui occupait à ce moment-là la région qui s'appelait le Dalmazanès. Donc c'était un enclos ecclésial où a été créé dès le XIIe siècle cette église romane. Puis cette église romane a certainement perduré jusqu'au XVe siècle, date à laquelle la nef a été agrandie. Et cette nef est actuellement aujourd'hui une nef unique, méridionale.
Alors juste, Pierrette Pédoussa, le lien avec Saint-Cernin, donc c'est une église tout simplement qui est dédiée donc à Saint-Cernin, ce premier martyr chrétien.
Au fond de l'église, nous avons une pierre de consécration sur laquelle figure la date de 1156. Et à cette date, il y a aussi une. Sur la pierre figure 1156, qui est la date de consécration, et à cette époque-là, on avait consacré l'église de Domazin à Saint-Cernin, parce que je vous expliquerai qu'à l'extérieur, il y a aussi une pierre archaïque qui représente le martyr de Saint-Cernin. C'est une pierre archaïque et où l'on représente une personne qui est tirée par un bovin.
Puisque c'était le martyr de Saint-Cernin qui a donc été, qui a été martyrisé par un... Alors juste, Pierrette...
Juste, ce serait l'air, oui.
Pierrette Pedoussa, comme le temps passe, donc je sais qu'il y a un nouvel hôtel qui a été récemment remplacé, que actuellement l'orgue est en pleine restauration. Est-ce que vous pouvez nous dire juste ce qui va se passer à l'occasion de la prochaine Nuit des Églises? Quelles sont les festivités qui sont prévues donc dans ce petit bijou roman et gothique de l'Ariège?
Oui, mais je voulais aussi vous dire, en termes de bijou, nous avons une croix des chemins qui est du XIVe siècle et que les Beaux-Arts nous ont demandé d'abriter dans l'église. Et cette croix du chemin est située dans le chevet.
Alors juste, pour les prochaines festivités, Pierrette Pedoussa, qu'est-ce qui est prévu?
Alors les festivités de la Nuit des Églises, ce sera une soirée du 6 juillet, présente, quoi, parce que nous célébrons la Nuit des Églises depuis 2014, et chaque année nous avons l'habitude d'organiser une partie musicale et puis une soirée avec une lecture de texte, avec une exposition, avec la mise en valeur de notre église qui est ce soir-là éclairée avec de nombreuses chandelles. Nous ressortons les candélabres qui décorent les autels. Et cette nuit, et cette église qui, par ailleurs, nous ouvrons tous les jours, mais cette église, cette nuit-là, est insolente. Elle est propice à la réflexion, à la
prière.
Donc
rendez-vous est donné donc pour l'église Saint-Cernin de Domazin située en Ariège donc le 5 juillet prochain. Alors Thérèse Resseguir, donc vous c'est une église mais surtout en fait plusieurs manifestations pour le canton de Castelnau-Montratier donc et non pas Montratier situé dans le Lot qu'on vous a appelé, autre bijou de ces 50 000 édifices religieux qui parsèment la France. Si vous deviez tout simplement commencer par nous présenter Castelnau-Montratier, qui est un village construit sur un lieu un peu improbable.
Oui, effectivement, c'est bâti sur un éperon rocheux. L'église de Castelnau-Montratier, elle a peut-être une particularité, c'est qu'elle est vraisemblablement la plus récente dans le département du Lot, puisque la première pierre a été posée le 17 janvier 1907.
Alors juste sur le lieu, Castelnau-Montratier, donc vous dites que c'est un village construit en haut d'un éperon rocheux. Est-ce que vous pouvez juste le décrire un tout petit peu?
Alors, à l'extrémité de la Grand Place, se trouve en surplomb de la vallée de la Lutte, cette grande église blanche. À l'arrivée dans Castelnau, on remarque la Grand Place avec ce que l'on appelle les couverts, c'est-à-dire cette place que l'on appelait également la place du Mercadial, était le lieu où se retrouvaient les marchands au Moyen-Âge et pendant leur séjour à Castelnau, Montratier. Alors on dit tour à tour Montratier et Montratier, mais Montratier est une erreur. Les marchands se rassemblaient et se mettaient à l'abri sous les couverts. C'est une bourgade, c'est un chef-lieu de canton et c'est en même temps une bourgade.
Voilà, il y avait autrefois des grandes foires lainières, ai-je vu. En tout cas, un beau lieu qui a été reconstruit, entre autres, après les croisades des Albigeois qui ont détruit une partie de la ville. Alors, si on se penche sur l'église de Castelnau-Montratier, où va se passer une des festivités, c'est une église tout à fait improbable, à l'architecture surprenante, qui n'est pas sans rappeler le Sacré-Cœur de Paris. Racontez-nous ce que cette étonnante église fait là.
Effectivement, cette église, je crois qu'on pourrait dire que c'est l'histoire d'une vie d'un prêtre, Cyprien Doucet, qui à son arrivée en juin 1880 à Castelnau, découvre l'église romane qui, elle, remonte au XIIIe siècle et qui la trouve dans un état, dit-il, délabré et trop petite pour accueillir tous les paroissiens et son souhait est de construire une nouvelle église à l'emplacement de celle-ci, à l'emplacement de cette église ancienne qui était l'église du Castrum. Et à l'instar de ce qu'il venait de faire en quittant la commune d'Augeol, où il était parvenu à faire reconstruire l'église. Alors, comme vous le dites très justement, quand on arrive sur le parvis de l'église de Castelnau, on ne peut que penser à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il y a le dôme, il y a deux campaniles, et elle est également toute de pierre blanche. Alors,
on appelle ça, si je me trompe pas, c'est le style romano-byzantin. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, effectivement. Je crois qu'on parle aussi d'un certain éclectisme, parce que, oui, on a conjugué le roman et le style byzantin. L'abbé Doucet avait beaucoup aimé les églises romanes auvergnates. Et dans un premier temps, il avait souhaité reconstruire une église de style roman. Et puis il a poursuivi sa découverte des églises, je dirais, à travers l'Europe, puisqu'il est allé en Suisse, il est allé en Italie, et sa réflexion s'est mûrie. Il a travaillé avec plusieurs architectes successifs qui chacun ont voulu apporter leur patte, et c'est peut-être de là que vient un certain éclectisme dans l'architecture de cette église.
Thérèse Seguir, cette église, donc, elle va être mise en valeur à l'occasion de la Nuit des Églises. Est-ce que vous pouvez nous parler des festivités qui sont prévues dans cette église et puis plus largement dans le canton de Castelnau, Montratier, pour finir cette émission, donc dans le Lot, je le rappelle.
Oui, merci. Alors, effectivement, dans l'église Saint-Martin de Castelnau-Montratier, nous prévoyons une soirée le samedi 6 juillet à 21h. Alors, comme nous l'avions fait l'année dernière pour notre première participation à la Nuit des Églises, nous avons invité deux jeunes organistes, élèves du conservatoire de Cahors et de l'organiste Albertus Derksen, qui tient l'orgue de Cahors. Ils vont ouvrir la soirée par un récital d'orgue qui sera suivi, lorsque la nuit sera tombée, à partir de 10h du soir, de la projection d'un film documentaire sur les 24 églises de l'ancien canton de Castelnau-Montratier. Alors, je dis ancien canton parce qu'avec la refonte du découpage départemental, comme dans tous les départements, actuellement, le canton est plus étendu. Donc, l'ancien canton couvrait cette commune.
Donc, un concert, une projection. Est-ce qu'il y a d'autres choses à signaler pour finir?
Alors, oui, parce que nous avons choisi cette année le thème de cloches et clochers. Et pendant le film documentaire, il va y avoir la projection également de l'interview d'un sonneur de cloches à la magnifique église de Russac, et Michel Fourniol nous présentera quelques sonneries de cloches avec la force de sa conviction chrétienne, parce qu'il a tenu dans l'interview à dire combien pour lui sonner la cloche est une prière.
Eh ben merci beaucoup, Thérèse Reseguir, de nous avoir parlé de ces festivités, donc de cette église romano-byzantine, fruit donc du travail ou des souhaits d'un prêtre, l'abbé Doucet, fruit d'un rêve, on peut dire. On invite les auditeurs à vous rejoindre. Merci à tous. Je rappelle donc, pour la cathédrale Saint-Étienne, c'est le 28 juin de 21h à minuit, pour l'église Saint-Cernin de Domazin en Ariège, ça sera donc le 5 juillet. Et pour vous, donc dans le canton de Castelnau-Montratier, ce sera donc le 6 juillet au soir. Toutes les informations des festivités sont à retrouver donc sur le site internet de la Nuit des Églises, tout simplement. Merci beaucoup à tous. Cette émission a été réalisée par Océane Soulier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.